Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Massimo Bellini. À la technique, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, nous allons déambuler sur les chantiers de construction. Troisième épisode de notre série consacrée à l'économie du bâtiment. Après avoir extrait le sable nécessaire à la fabrication du béton et observé le quotidien des ouvriers du BTP, nous allons nous pencher sur les politiques de grands travaux. Près d'un siècle après le New Deal initié par Roosevelt, le père des plans de relance keynésiens, l'investissement public peut-il encore sauver la croissance ? La construction de nouvelles infrastructures aux États-Unis, en Europe ou en Chine pourrait-elle freiner le ralentissement de l'économie mondiale ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Le moment est-il venu de lancer une nouvelle politique de grands travaux ? Nous allons en discuter avec Dominique Barjot, historien, professeur émérite à Sorbonne Université, professeur à la Renmin University of China de Pékin et auteur de La grande entreprise française de travaux publics 19e-20e siècle, paru chez Economica, en compagnie également de Frédéric Marty en duplex de Nice, chercheur en économie au CNRS, rattaché à l'Université Côte d'Azur et spécialiste des partenariats publics-privés. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet.
Une superbe chaussée, faite avec la solidité et la magnificence qui distinguent les grandes routes françaises, prend la place des misérables chemins de Catalogne, encore tels que la nature les a tracés. De beaux ponts sont jetés sur les torrents qu'il fallait passer à gué. Nous nous trouvions tout à coup transportés d'une province sauvage, déserte et pauvre, au milieu d'un pays enrichi par l'industrie de l'homme. Tout tenait le même langage et nous disait en termes sur lesquels on ne pouvait se méprendre qu'une cause puissante et active produisait ces contrastes, trop évidents pour être méconnus. Plus on voit, plus, selon mon opinion, on est conduit à penser qu'il n'y a qu'une influence toute puissante qui stimule le genre humain, le gouvernement. D'autres produisent des exceptions et des nuances. Celle-ci agit avec une efficacité permanente.
Frédéric Marty et Dominique Barjot, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec un extrait des Voyages en France d'Arthur Young, publié en 1792, élu ici par Romain de Bec-de-Lièvre, que nous ouvrons cette émission. Que vous inspire d'abord cette lecture, Frédéric Marty ?
Tout d'abord, j'oserais dire des souvenirs de lycée, lorsque j'étais au lycée Arago de Perpignan, mais plus profondément, la mise en évidence quand même de l'utilité de l'État dans la construction des grandes infrastructures et cette idée que le commerce ne peut se développer que s'il y a une action consciente et organisée de l'État. Et donc ce qui est particulièrement important dans ce passage d'Arthur Young, c'est à la fois l'insistance sur le rôle de l'État comme facilitateur du commerce, ce qui est un premier but des infrastructures publiques telles que le connaissait notamment à Rome, mais aussi une portée stratégique qu'on retrouve dans les deux cas. Donc c'est à la fois le commerce et l'aspect stratégique qui est derrière, mais aussi d'autres dimensions comme l'aménagement du territoire ou dans certains cas aussi également des questions sur l'utilité collective des infrastructures. Un peu plus loin d'aller voyager en France, Arthur Young souligne un point qui est assez particulier mais qui est assez évocateur pour nous lorsqu'il dit qu'il y a des infrastructures qui sont malheureusement superbe, mais parfois inutile. Et ça pose le problème, que je pense on abordera dans notre entretien, de la complémentarité de l'investissement public avec l'activité et les investissements privés.
C'est une question qu'on va évidemment soulever, Dominique Barjot. Peut-être une mise en contexte de ces voyages en France d'Arthur Young et effectivement de ce qu'ils nous disent du rôle de l'État dans le développement des infrastructures et dans l'économie plus largement.
Alors, je ferai trois remarques. La première concerne un très grand chantier de la monarchie au XVIIIe siècle, qui est l'opération Pavé du Roi. L'objectif est de doter la France d'un grand réseau de routes bordées d'arbres, nos fameux platanes. et ainsi de permettre la diffusion des activités économiques à travers tout le pays. La deuxième remarque, c'est que ce projet rencontre celui d'une famille d'économistes qu'on a souvent désigné sous le terme de physiocrates et qu'on assimile assez souvent à la formule « laisser faire, laisser passer ». Et puis le troisième élément, c'est que ce qui a pu permettre de réaliser ce grand projet, c'est la création par la monarchie française d'ingénieurs spécialisés dans l'aménagement de l'espace, qui sont les ingénieurs des ponts et chaussées. Et la rationalité de ces ingénieurs rejoint le thème qu'évoquait tout à l'heure mon collègue Frédéric Marty, qui est celui de l'utilité collective.
Alors, il va falloir voir effectivement quel rôle ces infrastructures peuvent jouer et quel impact elles peuvent avoir sur l'économie réelle. En l'occurrence, avec le ralentissement de la croissance mondiale aujourd'hui et la crainte d'une récession, cette question de la relance économique par une politique de grands travaux, à l'image de celle que Roosevelt a lancée dans les années 30, Frédéric Marty, cette question est revenue en force dans le débat public ?
Tout à fait. Nous avons, un grand classique en matière de politique économique, c'est de considérer que les grands travaux peuvent avoir un impact à la fois à long terme sur l'aménagement du territoire, j'allais dire sur la compétitivité globale, mais aussi un impact à court terme de relance. Vous avez cité dès votre introduction le cas séminal d'une certaine façon de Franklin Delano Roosevelt lors du premier New Deal, qui en 1932 lance un programme de réamorçage de pompes, de grands travaux. On a tous en tête les images de la Tennessee Valley Authority, et ce avant même la publication de la théorie générale de l'emploi par Keynes. Keynes publie la théorie générale en 1936. Et cette logique de relance par la dépense budgétaire, et notamment par la dépense publique dans les infrastructures, est un fait à plusieurs reprises observé dans l'histoire. Si on va dans des périodes bien plus proches des nôtres, on retrouve la même chose en 2008 avec la relance par l'investissement s'est appuyé, on en parlera tout à l'heure, sur des partenariats privés, notamment pour des lignes à grande vitesse. Et on trouve la même pratique au niveau américain avec le plan de relance qui avait été mis en place par Barack Obama en 2009. Donc on a cette constante, à vrai dire, des politiques publiques.
Mais alors ce qu'on constate, Frédéric Marty, c'est qu'en l'occurrence, c'est vraiment John Maynard Keynes qui a théorisé cette relance de la croissance par les grands travaux, notamment grâce à l'effet multiplicateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Tout à fait. C'est l'idée du multiplicateur budgétaire. C'est-à-dire, vous avez trois étages, pour ainsi dire, pour l'activité, la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Et les dépenses publiques, dans ce cadre-là, peuvent avoir un effet de relance, donc un effet multiplicateur, particulièrement attractif. Et donc, c'est un grand débat en termes de théorie économique que de savoir quelle peut être la valeur de ces multiplicateurs budgétaires selon l'endroit du cycle où nous nous situons, en haut du cycle, en bas du cycle, selon le niveau des taux d'intérêt, faible ou élevé, et selon, bien évidemment, le degré d'ouverture des économies.
Vous l'avez dit, la théorie générale de Keynes sort en 1936. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Nous sommes d'ailleurs tout disposés à reconnaître que la sagesse serait de progresser dans les deux directions à la fois. Tout en souhaitant que le flux d'investissement soit gouverné dans un esprit social, de manière que l'efficacité marginale du capital décline progressivement, nous admettrions qu'on applique en même temps toutes sortes de mesures propres à accroître la propension à consommer. Car il est improbable que le plein emploi puisse être maintenu avec l'actuelle propension à consommer, quoi que l'on fasse dans le domaine de l'investissement. Il y a donc assez de marge pour suivre à la fois les deux politiques, pour accroître l'investissement et dans le même temps porter la consommation à un niveau encore plus élevé.
Voilà, dans ce texte, Keynes explique qu'il faut donc mener de front l'investissement et le soutien à la consommation, Frédéric Marty. L'un ne va pas sans l'autre.
Tout à fait. Mais la difficulté, notamment, qui s'est posée à plusieurs reprises, c'est que Keynes raisonne dans un cadre d'économie fermée. Et en économie ouverte, la relance par l'investissement, d'une certaine façon, évite une bonne partie, je mets les guillemets en disant cela, des fuites de la relance par la consommation. C'est-à-dire elle ne va pas dégrader les soldes extérieurs. Et donc la relance par la construction, la relance par les grandes infrastructures, a potentiellement un effet multiplicateur supérieur.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, on va faire réagir Dominique Barjot, puisqu'en l'occurrence si on regarde du côté du New Deal, c'est aujourd'hui encore l'objet d'un débat entre économistes sur la réussite ou l'échec de cette politique. Est-ce que véritablement cette politique de grands travaux lancée par Roosevelt a été la juste réponse à la crise lancée par le krach de 29, Dominique Barjot?
Je dirais non. On a souvent... montré, la majorité des historiens économistes l'ont montré, en fait, le New Deal s'est avéré insuffisant pour relancer l'économie américaine, et c'est la guerre, l'économie de guerre qui l'a remise sur place. On retrouve ce problème de l'efficacité des plans de grands travaux dans un certain nombre d'exemples. On peut prendre en France... au tournant des années 1880, le plan Freycinet, qui était au fond l'équivalent de ce que Roosevelt a fait avec le New Deal à l'échelle française, et qui lui aussi a échoué, notamment parce que le problème du financement de ces grands travaux s'est posé, a entraîné un déficit budgétaire important.
Mais alors, le plan Freycinet a été un échec davantage que le New Deal tout de même, parce qu'il illustre peut-être ce que Frédéric Marty soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire cette difficulté à évaluer l'impact de grands travaux et la possibilité de faire des grands travaux qui sont en réalité inutiles.
Oui, mais je crois réellement qu'on a surestimé le New Deal du point de vue de ses effets économiques. Il ne faut pas oublier qu'il comporte une partie de malthusianisme en réalité, et notamment en ce sens que pour limiter la production industrielle qui était en excédent à l'époque, le gouvernement Roosevelt a favorisé des ententes entre les entreprises, et c'est peut-être finalement plutôt ces pratiques malthusiennes que la logique même du plan de grands travaux qui est en cause. Et j'en prendrai un exemple pour défendre cette fois les plans de grands travaux. Je dirais que dans l'histoire, il y a d'autres plans de grands travaux qui, eux, ont été efficaces. Un bon exemple, ce sont les travaux de l'époque du Second Empire. On sait que le Second Empire a mené une politique conjoncturelle assez efficace, associant politique monétaire et politique budgétaire, et a permis au fond une croissance assez soutenue de l'économie française jusque vers 1867-68.
Mais alors sur un plan théorique, est-ce que un projet, une politique de grands travaux fonctionne si les gens commencent à consommer, à épargner, et plutôt qu'à consommer, Frédéric Marty? Tout dépend du comportement des consommateurs.
Je voudrais peut-être revenir rapidement sur ce que vient de souligner à fort juste escient Dominique Barjot au sujet du New Deal. La politique qui a été menée par le président Roosevelt en 1932 est en effet très spéciale. Il y a ces grands travaux, mais comme vient de dire Dominique Barjot, il y a aussi une vision un peu malthusianiste, une vision, j'allais dire, un peu contraire aux règles de concurrence. C'était le cas notamment avec ce qu'on appelait le NIRA, le National Investment Recovery Act puis Administration, qui organisait, comme le professeur Barjot a dit, des ententes entre les producteurs, les consommateurs et surtout entre les producteurs entre eux, sous l'égide de l'État, pour stabiliser les prix. Parce qu'on était dans une crise de déflation, c'est-à-dire d'une certaine façon, les prix baissaient de façon constante et vous ne pouviez pas, d'une certaine façon, rentabiliser vos investissements. Et donc, le président Roosevelt considérait à ce moment-là, sous l'influence de conseillers un peu dirigistes comme Tugwell, Berlin Mintz, qu'on connaît pour des écrits en gestion, d'avoir cette idée de sortir d'une concurrence coupe-gorge, de stabiliser l'économie. Donc il y avait à la fois cet effort de stabilisation des prix et de relance par l'investissement. Et bien évidemment, ça va en grande partie échouer. Et d'ailleurs, en 1938, le président Roosevelt relancera un antitrust assez vigoureux, et ce qui fera réellement sortir les États-Unis, j'allais dire un peu de cette trappe, au début déflationniste et ensuite stagflationniste, si je puis faire cet anachronisme, c'est tout simplement, comme disait le professeur Barjot, l'économie de guerre. Et cet exemple...
Alors, il faut peut-être expliquer simplement la stagflation, c'est à la fois la stagnation de la croissance et en même temps l'inflation.
Exactement. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le phénomène qu'on a connu dans les années 70, en fin de compte. C'est cette idée qui revient en économie à ce qu'on appelle la courbe de Phillips. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la relance qui, à terme, devrait être effective, a de moins en moins d'impact parce que les agents anticipent ces effets inflationnistes futurs. Si la relance est financée à crédit, en tant qu'acteur rationnel, je sais que je vais devoir payer plus tard par mes impôts cette relance. Et donc comme vous venez de l'indiquer, je thésaurise, j'épargne. Et à la fin, cette fameuse courbe de Phillips devient verticale. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'effet de relance à court terme. Et la stagflation qu'on a connue dans les années 70 correspondait exactement à cette situation-là.
Et puis il y a un autre écueil possible de ce type de politique de grands travaux, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, c'est-à-dire le fait que l'investissement public évince l'investissement privé, Frédéric Marty.
Tout à fait. Alors là, c'est dans un cas, et on va pouvoir en discuter, je pense, tout à l'heure, dans un cas c'est précis, c'est où l'endettement public crée un effet d'éviction sur le financement de la dette privée, et se traduit par une augmentation des taux pour les investisseurs privés. À ce compte-là, on n'a pas un effet de levier entre investissement public et investissement privé, ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, à la fois nous, les Chinois et les Américains, mais on a au contraire un effet de substitution. Et donc, d'une certaine façon, l'investissement public qui va se faire va simplement, comme vous venez de dire, évincer l'investissement privé. Mais attention, ça marche dans des situations dans lesquelles les taux d'intérêt sont relativement élevés, ce qui n'est pas vraiment le cas
aujourd'hui. Alors prenons un exemple justement actuel, vous avez parlé de la Chine, parlons des nouvelles routes de la soie, le projet pharaonique lancé en 2013 par Pékin. Je vous propose d'écouter d'abord Thomas Gomard, le directeur de l'Institut français des relations internationales.
C'est effectivement très important parce que ce projet a pour vocation de permettre aux entreprises chinoises qui sont face à un marché intérieur saturé dans un certain nombre de secteurs d'exporter leur surcapacité. Il y a trois secteurs principaux sur lesquels elles sont attendues. Les infrastructures, évidemment avec des plans de financement très avantageux pour les pays qui y participeraient. Les infrastructures portuaires, c'est-à-dire que les routes de la soie, c'est aussi un déploiement de routes maritimes. Et enfin, et c'est moins connu, les infrastructures numériques, c'est-à-dire que se mettent en place dans ces corridors un certain nombre de data centers qui, au fond, rappellent que le maître mot aujourd'hui pour la Chine sur le plan international, c'est la notion de connectivité.
Ce projet de nouvelle route de la soie, Dominique Barjot, il est conçu comme un instrument de relance par Pékin ?
C'est un instrument de relance économique, mais c'est aussi un instrument d'affirmation d'un leadership de nature politique. Les deux éléments sont intrinsèquement liés, puisque en fait la Chine, c'est un pays dans lequel la politique publique est dominante, même si il existe des entrepreneurs privés, notamment dans les secteurs de nouvelles technologies, qui disposent d'une assez large marge d'initiative. On peut dire que la plus grande partie des grandes entreprises chinoises sont des entreprises rattachées au secteur d'État, encore aujourd'hui, et notamment dans le secteur de la construction. On sait que les quatre premiers constructeurs mondiaux aujourd'hui sont des Chinois, et que la Chine représente à peu près 50% du marché mondial de la construction de nos jours.
Et c'est aussi le gigantisme du pays qui explique que la Chine a fondé son modèle économique sur l'investissement, notamment en infrastructures, Dominique Barjot.
Oui, alors ça s'explique d'abord par l'immensité du pays, l'abondance de la population, parce que dans le raisonnement sur les grands travaux, je crois qu'il faut introduire le facteur démographique. C'est absolument essentiel.
Et la trajectoire démographique, en effet.
Voilà, c'est absolument essentiel, la question démographique. Il y a deuxièmement un élément très important, c'est que la Chine, c'est un pays dans lequel la partie est de la Chine, la partie côtière est une économie quasiment à notre niveau de développement, et qu'au contraire, plus on va vers l'ouest, plus on est dans des régions émergentes, voire des régions en retard par rapport à la moyenne mondiale.
Donc dans les années 90 et 2000, il y avait cet enjeu très fort de doter ces régions en infrastructures.
Et ça reste encore vrai aujourd'hui. Ne serait-ce que par le fait que la main-d'œuvre chinoise des régions côtières devient maintenant une main-d'œuvre coûteuse et qu'il faut délocaliser les activités industrielles de plus en plus profondément dans le pays. Cela entrant en cohérence avec les exigences de préservation de l'environnement, puisqu'on sait que la Chine est un des pays les plus pollués du monde. Le gouvernement chinois, en fait, compte sur les routes de la soie pour non seulement développer son influence économique et politique dans le monde, mais aussi développer les régions les plus pauvres de son territoire.
Alors, il est évidemment beaucoup trop tôt pour dresser un bilan de l'efficacité économique des routes de la soie, mais on peut se demander si cette politique, plus largement, qui a été menée quasiment depuis l'ouverture de la Chine dans les années, à la fin des années 70, si cette politique a véritablement tiré le reste de l'économie chinoise, Frédéric Marty, et si c'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a des choses fondamentales qui ont été dites à l'instant par Dominique Barjot, c'est que le cas de la Chine illustre parfaitement l'intrication entre objectifs économiques et objectifs politiques. Il y a une question de souveraineté et de sécurité stratégique dans les routes de la soie, de façon interne, hein, avec cette déconnexion entre l'est de la Chine côtière, et les régions occidentales de la Chine, qui sont peut-être plus instable, moins développé et où se posent des questions à la fois stratégiques mais aussi de redéploiement de l'activité productive. Donc il y a une question d'aménagement du territoire, mais il y a aussi une question, j'allais dire, de sécurité extérieure. À l'heure actuelle, je crois que près de 60% des échanges de la Chine passent par le détroit de Malacca. Et donc, ces corridors et ces routes maritimes qui sont portées par les investissements absolument considérables de la route de la soie ont aussi cette visée de sécurité. Il y a aussi un argument qu'a souligné Dominique Barjot qui est essentiel, qui est un argument de gestion du coût de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, les problématiques de la Chine sont à la fois de gérer des réservoirs de main-d'œuvre à faible salaire potentiel dans certaines régions rurales, et de prévenir le risque de délocalisation des activités. Mmh. Et donc ces routes de la soie sont aussi une occasion, j'allais dire, de restructuration industrielle du tissu industriel chinois. Ça permet de délocaliser certaines activités dans des zones à plus bas salaire, et ça permet aussi une montée en gamme des productions chinoises. Mmh. Si on rajoute à ça l'aspect qui avait été notamment souligné dans l'interview que vous avez diffusée en entrée sur le cas chinois, qui est des investissements dans des actifs stratégiques, des ports, hein, on pourra parler tout à l'heure du port du Pirée par exemple, des infrastructures de transport, et aussi, ça a été parfaitement souligné, des infrastructures numériques, c'est-à-dire les data centers, les câbles de fibre optique, ainsi de suite, sont des éléments essentiels, j'allais dire, de sécurité à la fois économique et stratégique. Donc même cette nouvelle économie de laquelle on n'attendait pas la Chine il y a 10 ans, est dorénavant, et depuis quelques années, fondamentale pour la Chine.
Alors on le voit, un investissement public extrêmement fort et qui peut inquiéter du côté de l'Europe, Dominique Barjot, puisque précisément en Europe, les financements, les investissements sont jugés trop largement insuffisants, notamment dans le numérique.
C'est vrai dans le numérique. Incontestablement, du fait que la Chine est en train de devenir le principal rival des États-Unis. L'affaire Huawei est bien révélatrice de l'inquiétude des États-Unis devant la perte possible d'un leadership dans ce secteur. Mais je dirais qu'il y a un autre élément qui, dans le cas de l'Europe, est assez préoccupant. C'est qu'en fait, l'Europe a encore des territoires qui sont à des niveaux de développement très différents. Et la Chine peut sembler apporter à un certain nombre d'États de l'actuelle Union européenne, dans l'Est de l'Europe, des solutions que l'Europe elle-même ne peut pas leur apporter. Je prends un exemple.
Ne peut pas ou ne veut pas, en l'occurrence. Alors c'est un choix politique.
On peut en discuter, il y a une partie de choix politique, mais il y a aussi un certain nombre de difficultés, objectifs sur lesquels bute l'Europe, l'Allemagne, la France, les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne aussi, sont quand même confrontées à des limites qui ne leur permettent pas d'entrer en concurrence avec la Chine. Je prends l'exemple de la Pologne, parce que la Pologne, c'est un pays qui est très soutenu par les États-Unis, qui a une prioritaire aux yeux des États-Unis, qui est en conflit avec la Russie de par toute son histoire. Mais en même temps, la Pologne est très ouverte aux investissements chinois. Et ce que sont en train de faire les Chinois, c'est de développer un réseau d'alliances à l'intérieur de l'Europe entre tous les anciens pays du bloc de l'Est. C'est voir la télévision chinoise très régulièrement quand je suis là-bas, c'est clair qu'il y a une stratégie délibérée de la Chine de constituer un sous-ensemble européen financé par des capitaux chinois par le biais des infrastructures.
Et ce sont les difficultés des pays européens de l'Ouest, ce sont ces difficultés dont vous parliez qui expliquent qu'aujourd'hui l'idée de financer de grands travaux européens semble piétiner, même si c'est une mission qui a été confiée depuis longtemps à la Banque européenne d'investissement, Dominique Barjot.
Alors, c'est clairement une erreur. C'est clairement une erreur, car justement, la chance d'avoir créé l'Union européenne, c'est d'avoir créé un grand marché et d'avoir des pays qui sont à des niveaux de développement encore très différents. Certains ont objectivement des besoins d'équipement considérables et il est vrai que les capacités d'épargne dont bénéficient les vieilles puissances de l'Ouest pourraient être bien utiles au développement de ces pays.
Alors il y a des besoins de nouveaux équipements et aussi des questions de rénovation des infrastructures existantes qui vieillissent, et notamment en Allemagne. Et pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, Frédéric Marty, c'est que l'Allemagne se refuse à creuser le déficit pour relancer la croissance.
Tout à fait, hein. C'est-à-dire on a des problèmes de manque d'infrastructures dans le sud de l'Europe, quand bien même l'arrivée de l'euro il y a de cela maintenant bientôt 20 ans avait permis un financement à des conditions très attractives des investissements publics et avait parfois conduit à la construction de ce qu'on pourrait appeler vulgairement des éléphants blancs, c'est-à-dire des infrastructures dont l'utilité socio-économique avait été insuffisamment évaluée. Je pourrais vous fournir quelques exemples. Par exemple, la Chambre européenne des comptes, l'équivalent de notre Cour des comptes, donc qui est sise à Luxembourg, a fait il y a quelques années un rapport sur les aéroports régionaux, notamment en Espagne, qui montrait des extensions de capacité aéroportuaire sans rapport avec des évaluations raisonnables du trafic futur. Donc, d'une certaine façon, au niveau européen, on paie à l'heure actuelle, le manque de sélectivité dans les investissements d'il y a 20 ans.
Alors même qu'avec les taux très bas actuellement et le vieillissement des infrastructures, ce serait peut-être justement moment de relancer l'investissement.
C'est exactement ce point-là. On a un retour de balancier et ce retour de balancier mène d'un excès à l'autre. Et cet excès, vous l'avez signalé tout de suite, c'est dans des pays comme l'Allemagne, la France notamment. Vous avez
un investissement public au plus bas depuis 1970, à 0,2% du PIB.
Exactement. On a un investissement qui n'a jamais été aussi bas depuis bientôt 40 ans. Et on a des infrastructures qui vieillissent. Et ce vieillissement des infrastructures pose un problème tout simple de compétitivité des entreprises privées. C'est-à-dire les infrastructures publiques ont pour effet théorique d'accroître la productivité des investissements privés. Si le réseau de transport ferroviaire est de moins en moins performant, si les réseaux, d'énergie ou de télécommunications sont assez peu performants, dans le cadre d'une concurrence mondialisée, les entreprises risquent de voter avec leurs pieds. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il en va de l'attractivité économique d'un pays, mais aussi d'un territoire, que d'avoir des infrastructures publiques adéquates par rapport aux besoins des investisseurs.
Alors on va voir que la question se pose aussi aux États-Unis. On verra également dans quelle mesure le public et le privé peuvent coopérer justement dans la rénovation et l'invention de nouvelles infrastructures. On en parle dans un instant.
Une pierre sur une pierre, c'est pas grand-chose. Une pierre sur deux pierres, ça peut faire un petit pan. Une pierre sur trois pierres, quand on les superpose, ça fait le début de tout un bâtiment. Oui, vraiment. Une bouteille de vin blanc, quelques sacs de ciment pour faire marcher tout ça, un bon coup d'huile de bras. Et les gars, quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Un petit morceau de bois, c'est une étagère. Deux petits morceaux de bois, ça peut faire un palier. Trois petits morceaux de bois, pour peu qu'on sache y faire. Nous voilà bons pour tout un escalier. Hop, ça y est, un marteau, quelques clous, un rabot. Et surtout pour faire marcher tout ça, un bon coup d'huile de bras. Et les gars, quand le petit mot va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Un petit coup de pinceau, ça ne vous fait qu'une touche. Deux petits coups de pinceau, ça fait un Picasso. 5000 coups de pinceau, ça fait une si belle couche que la maison reluit de bas en haut. Au boulot, du blanc pour le plafond, une échelle, une chanson pour faire marcher tout ça, un bon coup de fil de bras. Et les gars,
quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
C'était Quand le bâtiment va d'Annie Cordy et nous poursuivons notre discussion sur la place des grands travaux dans la relance de l'économie. L'historien Dominique Barjot et l'économiste Frédéric Marty sont toujours avec nous. On va partir maintenant du côté des États-Unis. Donald Trump a présenté il y a un an et demi son projet de modernisation des infrastructures américaines qui ont été construites pour la plupart entre les années 50 et 70. Alors où en est ce projet, Frédéric Marty, et quelles sont justement les retombées économiques espérées?
Oui, alors on est dans un projet de relance par l'investissement également, qui passe par des canaux assez diversifiés. Hein. C'est-à-dire c'est à la fois la rénovation d'infrastructures publiques qui ont eu très peu d'investissements en matière de maintenance depuis 30 à 40 ans. Et ça, c'est un grand problème sur les infrastructures publiques. C'est pas vraiment les nouveaux investissements, souvent, c'est l'entretien des investissements existants. Donc, on a ce volet aux États-Unis de rénovation, de mise à niveau, de mise en sécurité dans certains cas. Et on a aussi des projets emblématiques comme le fameux mur de séparation le long de la frontière mexicano-américaine. Mais ce qu'il faut noter, c'est deux choses très importantes à mon sens. La première chose, c'est le caractère un peu modique de ces investissements par rapport aux investissements chinois. C'est-à-dire entre le mur de séparation et les routes de la soie, si je prends vraiment ce raccourci un peu brutal, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions.
Et alors comment l'expliquer, Frédéric Marty ?
Eh bien, tout simplement... par la limitation des capacités d'investissement d'un gouvernement dans une économie, libérale, avec une dette publique déjà assez forte. Et ce qu'on va chercher à ce moment-là, c'est pas des investissements purement privés, mais c'est un effet de levier entre les investissements publics et les investissements privés. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a un plan de 1 500 à 1 700 milliards de dollars qui sont annoncés aux États-Unis dans cette relance. Mais les crédits fédéraux, en fin de compte, d'après les chiffres que j'ai, ne représenteraient que 200 milliards de financement sur 10 ans. C'est-à-dire, c'est simplement, si je suis les chiffres qu'avait donné Le Monde il y a de cela maintenant un an, c'est 0,1% du PIB américain. C'est moins que la rallonge qui avait été accordée au ministère de la Défense américain. Et c'est beaucoup moins que le stimulus fiscal, c'est-à-dire les baisses d'impôts qui ont été annoncées par l'administration républicaine au début de à l'arrivée de Donald Trump. C'est-à-dire cette relance par les investissements est très faible.
Très faible, mais peut-être qu'elle était tout de même assez importante en 2008, lorsque les États-Unis ont justement lancé un plan d'investissement, l'American Recovery and Reinvestment Act, pour justement relancer la croissance. À ce moment-là, le bilan était plutôt positif.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais le contexte n'était pas le même. C'était un contexte dans lequel les financements privés étaient très difficiles à obtenir. C'était le moment où le système bancaire et financier était en grande difficulté. Et là, on a eu une relance avec la relance Obama, une relance entre guillemets typiquement rooseveltienne. À l'heure actuelle, dans le cas de l'administration Trump, on a surtout une relance qui est une relance par la fiscalité, par la baisse de la fiscalité, par éventuellement, bien que je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus, par une baisse des dépenses budgétaires, et de façon très très accessoire, une relance par l'investissement. On est plus, j'allais dire, dans la recherche d'un effet de signal pour des investissements privés.
Dominique Barjot, sur cette politique d'investissement menée aux États-Unis.
Je voudrais faire plusieurs remarques pour clarifier un peu la discussion. D'abord, bien rappeler que l'investissement a trois composantes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une nécessité d'entretien. Il y a aussi une nécessité d'amortir, c'est-à-dire de maintenir en l'état le potentiel productif. Et puis, il y a la possibilité d'investissement d'extension. Et donc, il est vraiment important de voir à quel niveau de réponse on se situe. Deuxième élément, c'est qu'il faut faire attention quand on compare les états l'un à l'autre. Investissement d'État ne signifie pas forcément investissement public. Je prends l'exemple de l'Allemagne, qui est un pays fédéral. En fait, l'État fédéral allemand est en général à la recherche d'un excédent budgétaire, mais les lenders, eux, peuvent avoir une politique beaucoup plus active en matière d'investissement public. Donc, faire attention quand on compare la France et l'Allemagne, par exemple, on ne parle pas des mêmes choses en matière d'investissement public. Et puis, je reviens à la question qui a été évoquée, la comparaison États-Unis-Chine en matière d'investissement. Il ne faut pas oublier que la politique des routes de la soie, pour les Chinois, c'est l'équivalent du plan Marshall. Voilà. Leur idée, c'est faire un plan Marshall chinois qui permettra de répondre aux besoins des pays en voie de développement qui se situent sur cette route de la soie, mais aussi par extension aux États africains. Et là, il y a évidemment un enjeu formidable, c'est que la Chine se positionne comme l'acteur majeur permettant de répondre aux besoins d'équipement des pays émergents d'Afrique.
Alors ça pose en tout cas une question essentielle. L'État doit-il et peut-il prendre en charge seul le développement des infrastructures? Absolument pas pour l'économiste Milton Friedman. Je vous propose de l'écouter.
If a private organization makes a mistake,
si une organisation privée commet une erreur et gère mal son affaire, elle perdra de l'argent et finira par déposer le bilan. Si une organisation gouvernementale gère mal son affaire, commet des erreurs, elle sera élargie. Elle sera élargie en évoquant la raison suivante, elle n'avait pas les ressources suffisantes pour accomplir sa tâche. Ou alors, elle sera mise au banc et une autre organisation sera créée pour accomplir la tâche de la première. Je n'ai jamais dit que les initiatives gouvernementales n'étaient pas aussi bonnes que celles du privé. Le problème avec le gouvernement ne réside pas dans les choses qu'il essaie, mais dans l'absence de mécanismes permettant de reconnaître les erreurs.
Frédéric Marty, que vous inspirent ces propos de Milton Friedman, traduits ici par Romain de Bec-de-Lièvre?
Alors, un tas de choses passionnantes ont été soulevées par Milton Friedman. Tout d'abord, les difficultés dans les grands projets, que ce soit les grands projets industriels ou les grands projets d'infrastructure, se retrouvent à la fois dans les projets publics et dans les projets privés. Il y a toute une littérature qui a été notamment développée par Bent Flyberg, qui est professeur à Oxford, sur les dérives de coûts, les dérives de délais dans les grands projets d'investissement. Et on retrouve ces difficultés, que l'entité soit publique ou privée. Mais il y a deux points qui sont importants. Quand on a un financement privé, totalement ou partiellement, les investisseurs opèrent ce qu'on appelle, je vais utiliser un terme anglais avec mon accent, ça peut être assez comique, une procédure de due diligence, c'est-à-dire de vérification de la crédibilité, de la robustesse du modèle économique. C'est-à-dire les prêteurs qui n'ont pas de garantie, parce que leur argent va être immobilisé dans la construction, vont regarder si le plan est raisonnable ou pas. Ils vont prendre les hypothèses, j'allais dire, les plus conservatrices possibles. On parle de théorie de l'investissement, hein, c'est-à-dire à partir de quel moment on va pouvoir investir ou pas.
Et c'est ce qui fait dire à Friedman qu'il faudrait donc que ces infrastructures publiques soient prises en charge par le privé.
Voilà, donc il y a ces deux éléments. Premier élément, c'est la dimension ex ante, si je puis me permettre de faire un peu de jargon d'économiste, ce qu'on appelle l'anti-sélection, hein, la sélection d'un bon projet ou d'un bon dimensionnement pour le projet. Et il y a une dimension ex post, c'est-à-dire dans le courant de l'exécution du projet. Et ça, c'est le problème de l'aléa moral, c'est contrôler jusqu'où aller dans le refinancement du projet.
Alors il faut s'arrêter un petit peu sur cette question de la morale. Je vais donner la parole à Dominique Barjot. Effectivement, il y a une difficulté qui se pose dans les partenariats publics-privés, puisqu'on va arriver à en parler. C'est la question de l'asymétrie de l'information entre l'État et l'entreprise privée.
Oui, alors je voudrais d'abord, en réponse à ce qu'a dit Milton Friedman, rappeler que les États, vis-à-vis de la possible banqueroute qui peut leur parvenir, ne sont pas en position égale. Bien sûr, les États-Unis peuvent se permettre d'être durablement dans une situation déficitaire sans risque. Mais prenons la crise des pays émergents au milieu des années 80. La banqueroute du Mexique, la banqueroute de l'Argentine, la banqueroute du Brésil, la banqueroute du Nigeria. Ces pays-là se sont vus ensuite imposer par le FMI des règles extrêmement strictes et la punition a quand même été très lourde pour les États.
Donc, on reparlera de l'Argentine tout à l'heure dans le journal de l'Écho de Xavier Martinet, justement.
Donc, peut-être qu'il faut nuancer ce point. Et puis, deuxièmement, rappeler que dans certains pays, et c'est le cas de la France, la tradition administrative a intégré des notions d'utilité publique, de rendement, qui ont pu permettre de développer des investissements publics à haut niveau de rentabilité. Ça a été tous les travaux des ingénieurs économistes, les Dupuis, les Cournot, et les Valras, Pareto, etc. Ça a mené à des réalisations en matière d'investissement public qui se sont révélées à haute rentabilité. Hein. On peut prendre l'exemple des grands chantiers d'EDF qui ont quand même été des réussites globales pour l'économie. Ça m'amène à dire qu'il faut faire attention dans les pays anglo-saxons et dans les pays de droit romain, la vision des rapports entre l'entreprise et l'État sont très différents.
Mais en l'occurrence, depuis les années 80, les partenariats publics-privés se sont largement développés, même si évidemment ils étaient beaucoup plus anciens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, Frédéric Marty, quel était alors l'objectif de ces projets cofinancés par l'État et le privé ? Est-ce qu'il s'agit alors de désengager la puissance publique ou est-ce qu'il s'agit d'empêcher, comme ça a pu être le cas au Royaume-Uni, d'empêcher une privatisation totale de la gestion des infrastructures.
Tout à fait. Dominique Barjot a quasiment, introduit le sujet en parlant de la tradition française, à la fois de la tradition des ingénieurs, hein, on en parlait tout à l'heure avec les grands corps, notamment des ponts, et de la tradition du calcul économique d'un côté, et de l'autre, notre tradition de droit administratif. Le partenariat public-privé au sens large, dans les pays de droit romano-germanique, est un héritage du droit romain. Nous avons des concessions depuis, alors Dominique Barjot pourrait sans doute être bien plus précis que moi sur ces questions-là, mais depuis le XIVe siècle en matière fiscale avec la ferme, mais aussi des concessions pour des ponts, pour des concessions pour des mines depuis le XVe siècle. Et quand on pense, par exemple, aux canaux, le canal de Briare en 1638, le canal du Midi en 1666, et tous ces investissements également engagés lors du Second Empire, sous une forme de délégation de services publics, sous une forme de concession. Donc nous avons, en Europe continentale, cette grande tradition de la concession qui se caractérise par un point très simple, qu'on retrouve toujours en droit européen, hein, qui est le transfert du risque d'exploitation au concessionnaire. On dit en droit que le concessionnaire exploite le service à ses risques et périls. on vous donne une exclusivité d'exploitation d'une infrastructure pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, en fonction du risque et des investissements. Vous prélevez des péages sur les usagers et à la fin du contrat, l'actif revient à l'État. Si vous avez tenu vos coûts en matière de construction, de maintenance, d'exploitation, et si les usagers ont été là, en fin de compte, vous récupérez votre investissement.
Mais c'est intéressant de comparer, Frédéric Marty, pardon de vous interrompre, effectivement, le modèle anglais et le modèle français des partenariats publics-privés. Voilà. En l'occurrence, Dominique Bergeau, comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que le Royaume-Uni, qui a été l'un des principaux leaders des partenariats publics-privés, aujourd'hui a presque cessé d'y recourir ?
Il y a, entre les pays de droit romain et les pays de common law, une différence fondamentale dans les rapports entre celui qui est le maître de l'œuvre, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Dans les pays anglo-saxons, le maître de l'ouvrage est celui qui a le poids le plus important. L'architecte, l'ingénieur conseil a un poids déterminant. Alors que l'administration, le maître de l'œuvre, lui, le maître d'œuvre, laisse une grande latitude à son ingénieur conseil et que l'entrepreneur ne fait qu'exécuter les consignes de l'ingénieur conseil. Dans ces conditions, les cabinets d'ingénierie ont presque toujours le même raisonnement de calculer les coûts au plus haut de manière à s'assurer des marges minimales, étant donné que ces cabinets d'ingénieurs conseils n'ont pas d'actifs à financer en cas de difficultés financières. C'est très différent du système adopté en Europe continentale et notamment en France, où l'administration a une grande capacité de création, de conception, de réflexion, d'organisation des ouvrages, et l'entrepreneur, très souvent, développe, pour pouvoir préserver sa marge de profit, une activité d'étude importante qui lui permet d'apporter à l'administration ce qu'on appelle des variantes sur lesquelles il va se rattraper de l'impossibilité d'avoir des marges élevées sur un marché normal. Et dans ce schéma, l'ingénieur conseil est réduit à la portion congrue, hein, c'est le problème de l'architecte en France, dont on sait que ce n'est pas une profession rémunératrice pour la plupart des architectes.
Et voilà. Alors, quel est le modèle le plus efficace, Frédéric Marty? Vous allez me dire, ça dépend quel est l'objectif et ça dépend pour qui. Est-ce qu'on veut réduire les inégalités? Est-ce qu'on veut augmenter les marges des entreprises privées? Ça dépend de ces aspects-là.
Tout à fait. Il y a un point aussi de différence complémentaire de celui que soulignait Dominique Bergeau il y a un instant, entre le système français ou européen de concession et le système britannique de PPP, c'est le mode aussi de finance,
de
rémunération, oui. Hein, le partenariat public-privé. On va rémunérer simplement en fonction de la disponibilité de l'actif. C'est-à-dire, on va enlever au contractant privé le risque d'exploitation. Il a toujours un risque en matière de coûts, bien évidemment, hein, mais on lui enlève ce risque de trafic, ce qui permet d'étendre considérablement le champ de ces partenariats privés. On peut avoir un cas où on n'a qu'un seul client, c'est l'administration, c'est tout. Et ça permet aussi de sécuriser le financement. C'est-à-dire, les prêteurs n'ont pas à prendre en charge le risque de frappe trafic sur un tronçon autoroutier, le risque de fréquentation dans un stade de football, ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir un effet de levier bien plus fort entre les financements public et les financements privés. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une baisse spectaculaire avec ces PPP de la prime de risque. Mais je reviens à la question que vous posiez il y a un tout petit instant. Pourquoi les Britanniques qui ont été, les promoteurs de ce nouveau modèle de PPP
n'y recourent pratiquement plus.
Voilà, semblent maintenant depuis 10 ans ne plus y recourir. Alors il y a plusieurs raisons. Première raison, une raison qui est très politique. Hein, c'est-à-dire les PPP ont été lancés par Margaret Thatcher en 1987, officialisés par John Major en 1992, mais le vrai départ des PPP, c'est le New Labour, c'est l'administration d'Anthony Blair et de Gordon Brown. Et c'est un moment où il fallait, et on revient au point que vous soulignez il y a un instant sur les États-Unis et l'Europe, il fallait pallier les conséquences d'un sous-investissement très fort dans les infrastructures publiques et dans leur entretien, notamment dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur des hôpitaux. Et tout ça, ça se fait à un moment financier très précis, dans lequel il y a des liquidités abondantes et les fonds privés ne coûtent pas cher. Et donc on a ce qu'on appelle au point de vue financier le spread, c'est-à-dire le différentiel de taux entre la dette publique et la dette privée qui était très faible. Donc le surcoût financier du recours au PPP était raisonnable. Et donc qu'est-ce qui change à partir de 2010? D'un côté, ce sont les conservateurs avec James Cameron qui arrivent au pouvoir et qui veulent réduire l'investissement public dans une politique d'austérité. Et de l'autre, on a un changement financier de lequel on vit toujours à l'heure actuelle, qui est une élévation des coûts des financements privés, de la dette bancaire, ainsi de suite, et une baisse drastique des taux publics que nous connaissons encore à l'heure actuelle.
Ce qui nous ramène effectivement à cette question, l'État doit-il creuser aujourd'hui son déficit pour soutenir la croissance? Pour l'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, l'État peut le faire si les investissements sont tournés vers le développement durable, et puis on pourrait aussi évidemment rajouter le numérique, Dominique Barjot.
Alors la première chose que je voudrais faire remarquer à propos de l'expérience anglaise, c'est que les PPP anglais ont été en général obtenus par des entreprises non britanniques, et notamment des entreprises françaises. Et ça n'a pas échappé au gouvernement britannique qu'en fait l'opération des PPP profitait à d'autres que les entreprises anglaises. Aujourd'hui, dans le secteur de la construction, ce sont quand même les entreprises françaises qui sont les plus compétitives en matière de partenariat public-privé. À part les chinoises, ce sont les françaises, un peu les espagnoles et un petit peu moins les allemandes. Et les anglaises, non. Voilà. Il faut quand même avoir cette idée que...
Cette donnée bien en tête. Et sur la perspective justement d'investissement tourné vers le développement durable, on a pu parler de l'éventualité d'un New Deal vert. C'est ce qu'a proposé la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Est-ce que vous croyez à cette possibilité, à cette capacité de l'Union européenne de lancer ce New Deal vert, Dominique Barjot?
C'est, à mon avis, tout à fait possible. D'autres pays y ont pensé avant nous. Je pense que le premier pays à avoir expérimenté une stratégie de développement durable a été le Japon dans les années 1970. Le Japon s'est débarrassé d'un grand nombre d'activités polluantes. Il a fermé par exemple toutes ses usines d'aluminium parce que l'idée c'était de relancer la croissance par la lutte contre la dégradation de l'environnement. Un deuxième exemple, ça a été la Corée du Sud de Lim Yong-bak, dans la deuxième moitié des années 2000, au début des années 2010, où a été lancé le thème de la croissance verte. Et c'est effectivement à partir de cette croissance verte que l'économie sud-coréenne s'est relancée.
Et cela permettrait peut-être de faire mieux accepter aux populations aussi un certain nombre de projets. On a vu beaucoup de résistance, par exemple, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a bien d'autres.
Et je dirais qu'un pays qui est en train de se lancer dans cette voie, c'est la Chine. Car n'oublions pas qu'aujourd'hui, 93% des éoliennes mondiales sont fabriquées en Chine. Les Chinois se posent comme des leaders en matière d'énergie renouvelable.
Un dernier mot, Frédéric Marty, on arrive au terme de cette émission sur ce New Deal vert dont on a pu parler aussi aux États-Unis.
Tout à fait, nous sommes dans un cas assez particulier. Nous avons face à nous, j'allais dire, un mur d'investissement, des investissements dans la transition énergétique, des investissements dans les grands réseaux numériques. Et nous sommes dans une conjoncture où l'État peut s'endetter à des taux que nous n'avions jusqu'à présent jamais connus. Et donc, d'une certaine façon, ces investissements sont nécessaires et possibles. Reste toujours à régler la question fondamentale qui est la suivante, de bien sélectionner les projets d'investissement pour que ceux-ci soient les plus productifs possibles. Car il y a toujours, lorsqu'on lance de grands projets d'investissement, un effet d'aubaine qui peut conduire à sélectionner des investissements insuffisamment productifs ou des investissements dont les effets d'entraînement ne seraient pas suffisants.
Et c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Le FMI a-t-il manqué de discernement en prêtant 57 milliards de dollars à l'Argentine? Une semaine après le rétablissement du contrôle des changes par Buenos Aires, des économistes s'interrogent.
Oui, dès le lendemain, le 3 septembre, le prix Nobel d'économie Paul Krugman dénonçait ainsi sur Twitter le manque de discernement du FMI et il reprochait aussi au président Mauricio Macri, je cite, des erreurs de politique économique, erreurs évitables, titrait le Guardian hier, alors qu'interrogés par l'AFP, plusieurs économistes dénoncent eux carrément un choix politique plus que technique dans ce prêt de 57 milliards fait l'année dernière à Buenos Aires. L'inquiétude croît, en tout cas les indicateurs économiques sont au rouge, l'inflation à presque 55%, la note de la dette se dégrade et le risque d'un retour des péronistes à la présidentielle en octobre inquiète les investisseurs. Le taux de change, à titre d'exemple, peso dollar s'était affolé avec deux pics, 13 août après la défaite aux primaires de Macri et le 30 août après la demande de rééchelonnement de la dette. En somme, avec cet emprunt, Macri et le FMI auraient précipité l'Argentine dans une dangereuse spirale de spéculation à court terme. En fait, on n'a pas vraiment le choix, explique Anne-Laure Delatte, la directrice adjointe du CEPI.
Je ne suis pas très étonnée qu'un petit tweet, même s'il vient de Paul Krugman, puisse embraser les marchés financiers parce qu'on est dans une situation extrêmement volatile en ce moment. Tous les yeux se tournent vers la Banque centrale et on essaye de voir si on aura assez de dollars en réserve pour défendre la parité, pour essayer de stabiliser au maximum le taux de change. Ça n'est pas que leur responsabilité, hein. On a été dans une économie mondiale extrêmement accommodante où les investisseurs allaient chercher des titres avec un rendement suffisant. Quand vous avez les titres allemands qui sont extrêmement bas ou les titres français dont le rendement est extrêmement bas, vous avez des investisseurs qui vont aller chercher du rendement à 7-8% en Argentine. Donc ils ont accumulé de la dette. Et si l'économie mondiale se retourne, ce qu'on craint énormément, là on a des probabilités de retournement financier de plus en plus importantes, l'Argentine, elle, paye les pots cassés et ça fait partie des premières victimes collatérales.
Le président Mauricio Macri avait demandé un rééchelonnement de la dette fin août. Il lui est aussi reproché de n'avoir pas réussi à sortir de la crise, Xavier.
Oui, alors pour la dette, selon le Guardian, ce sont 44 milliards de dollars sur les 57 qui auraient été perçus par l'Argentine. Ensuite, sur l'influence de Macri sur l'économie argentine, certains parlent de mauvais choix, effectivement. Anne-Laure Delatte insiste sur l'incapacité qui date d'avant Macri à sortir d'un modèle de production et d'export où l'Argentine ne choisit pas ses prix, couplé à une longue histoire, vous l'avez entendu, de volatilité financière. Bref, situation très compliquée, avait reconnu Christine Lagarde en juin dernier.
On passe au bref, le FMI propose lui aussi un nouvel index plus sérieux que celui basé sur les tweets de Trump dont on parlait hier. Plus sérieux puisqu'il mesure le degré d'incertitude du commerce mondial.
Et oui, l'index World Trade Uncertainty qui accompagne la publication des perspectives mondiales aujourd'hui, fondé sur l'étude de 143 pays depuis 1996. Il mesure l'incertitude à partir de l'occurrence d'un certain nombre de mots-clés comme OMC ou Amérique du Nord à côté du terme incertitude. Trois enseignements, alors qu'il était stable ces dernières 20 années, l'indice a explosé, il a même atteint un record depuis la guerre commerciale Chine-USA en 2018 et l'incertitude ne concerne pas que les deux premières économies mondiales mais aussi le Mexique, le Japon ou l'Union Européenne, assez pour prédire selon le FMI une perte de 0,75% de PIB pour la croissance globale en 2019.
Incertitude commerciale justement en Asie, la Corée du Sud porte plainte à l'OMC contre le Japon.
Oui, contre des pratiques discriminatoires de la part de Tokyo, politiquement motivées, disait hier la ministre du commerce Yeo Myung-hee. Cette décision fait suite à la montée des tensions, on en avait parlé, commercialo-politiques entre les deux voisins de la mer du Japon cet été et à l'exclusion mutuelle de leur liste de pays sûrs avec lesquels commercer. Résultat, avec cet embargo technologique, les grandes entreprises de Corée du Sud sont retrouvées privées de trois composants chimiques essentiels pour fabriquer des téléphones ou des téléviseurs. Vrai problème pour Hynix, LG ou Samsung, premier constructeur mondial de semi-conducteurs.
L'Allemagne se veut rassurante quant à un potentiel risque de déficit budgétaire.
Oui, Angela Merkel surtout qui a plaidé hier devant les contribuables allemands pour, je cite, une politique budgétaire solide. La chancelière prend position dans un débat larvé sur le déficit budgétaire possible pour relancer une croissance allemande léthargique. 138 milliards d'euros seraient nécessaires selon la Banque publique d'investissement allemande. Depuis le début de l'été, les rumeurs se multiplient sur un abandon de la règle de l'équilibre budgétaire, le fameux 0,35% constitutionnel en Allemagne. Eh bien non, répond Merkel, ce sera un budget à l'équilibre. La chancelière de CDU rassure les contribuables et coupe aussi les ailes à son ministre des Finances SPD Olaf Scholz qui laissait courir la rumeur et veut se placer pour la présidence du SPD.
Il est 15h sur France Culture. J'en profite pour remercier Dominique Barjot et Frédéric Marty de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Remercier également les studios de Radio France à Nice qui ont assuré ce duplex. Demain, on se retrouve pour une émission consacrée à la menace d'une nouvelle bulle immobilière.